BFM Stratégie avec Frédéric Simotel sur BFM Business.
Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle émission BFM Stratégie avec notre partenaire le Boston Consulting Group. Depuis que j'ai pris en main ce sujet, j'ai toujours une petite musique. Alors pour les plus anciens, c'est l'amour du risque. Hein. Voilà, c'était un épisode, c'est une série américaine là des années 80. Et justement, parce qu'on va parler de l'amour du risque, de la prise de risque en entreprise avec nos deux invités, Benjamin Sarda, bonjour.
Bonjour.
Benjamin, partenaire au BCG, et Frédéric Mazzella. Bonjour Frédéric.
Bonjour.
Merci d'être avec nous, fondateur et président de Blabla et de DIFT. Et justement, on va voir si ensemble, est-ce qu'on ne serait pas devenu trop prudent et comment réapprendre à oser dans un monde où alors, l'incertitude, on l'a encore plus, hein, que ce soit géopolitique, politique, économique, il y a pas mal de choses à voir. Benjamin, on a beaucoup de dirigeants qui disent être rentrés dans une ère du hyper risque. De quoi on parle exactement?
En fait, je pense qu'il y a deux raisons pour lesquelles ils parlent d'hyper risque. La première, c'est une raison qu'on connaît tous, un peu macroéconomique. Pendant des années, on a eu une croissance très forte avec une inflation plutôt maîtrisée au niveau global. Et depuis quelques années, à peu près depuis le Covid, on a une croissance mondiale qui est beaucoup plus faible et on a des épisodes d'inflation qui sont très importants. Et s'ajoute à ça, depuis quelques années, des risques qu'on avait un peu oubliés, le risque de conflit armé, des nouveaux risques comme celui du cyber-risque, etc., qui créent pour les dirigeants le sentiment que les risques s'accumulent. Et dans une étude qu'on a faite en fin d'année dernière, 90% d'entre eux nous disent « j'ai l'impression que je fais face à beaucoup plus de risques qu'avant ».
Certains ont envoyé les États-Unis comme des amis, et puis finalement, on se rend compte qu'au niveau technologique, ça n'est pas forcément le cas. On pensait plus récemment des places comme Dubaï sûres, et puis on voit que pas forcément. L'Ukraine, c'est à 2 heures d'avion.
Et en fait, ça, c'est cette explosion des risques, ça bouscule un peu le leader et le manager parce que ça remet en cause sa façon de gérer les risques. Mm-hmm. Pendant 40 ans, on a géré des risques dans un univers qui était plutôt stable, dans lequel on connaissait nos risques. Et là, on est rentré dans un autre univers dans lequel il faut réapprendre à gérer des risques. C'est compliqué parce que pour 75% des dirigeants qu'on a interrogés, il faut garder une perspective long terme. Mm-hmm. Mais ils sont 80% à nous dire « je ne pilote qu'avec des indicateurs court terme ». Le cours de l'action, l'impact que je vais avoir sur mon PNL. Et donc, ça veut dire qu'il faut réapprendre cette gestion du risque. Peut-être un mot là-dessus, parce que on pourrait se dire que cette ère de l'hyper-risque, c'est un sujet mondial.
Oui.
En réalité, il a une petite particularité française. Il y a, chez les répondants à notre enquête...
On est plus inquiets, nous.
On est un petit peu plus inquiets. Déjà, on a un syndrome du bon élève, c'est-à-dire qu'il vaut mieux ne rien faire que de se tromper. Mm-hmm. On a des gens qui nous ont dit « je suis très fier d'avoir traversé ma carrière sans jamais avoir fait de bêtises ». On en a 10 fois moins qui nous ont dit « je suis très fier d'avoir pris des risques ». Et c'est un comportement qui va même jusque dans nos habitudes d'investissement. Quand on regarde la composition du CAC 40, entre 2015 et 2025, il y a 2 titres qui ont changé dans la composition du CAC 40.
Oui.
Si on regarde un indicateur équivalent aux États-Unis, les 40 valeurs les plus liquides du S&P 500, eh bien, il y a 40% de changement.
Oui, si on regarde les plus grandes valorisations, voilà, on se retrouve avec des entreprises qui, il y a 40-50 ans,
n'existaient pas.
Frédéric Mazzella, quand on entend, voilà, 20% des dirigeants pensent que la prise de risque est encouragée, ça vous surprend?
Non, pas vraiment. C'est-à-dire que je connais cet état d'esprit justement dans lequel on est né aussi, qui est que on a envie de faire bien ou de ne pas faire. Et quand on innove justement ou quand on prend des risques, on prend le risque de se planter, on prend le risque de faire de travers. Mm-hmm. C'est comme ça qu'on va apprendre. En fait, ça fait partie du processus pour faire mieux, mais parfois on a tendance à l'interpréter comme on parle d'échec. Après, je parle souvent du fait que les Américains ont un mot plus léger que l'échec pour parler d'échec. Ils parlent de fail. Oui. Et un fail, c'est un essai raté. Mm-hmm. C'est ok. C'est-à-dire qu'on a essayé, ça a pas marché. C'est pas grave. On continue. On a appris et on va pouvoir faire mieux la fois d'après. C'est vrai que dans les états d'esprit français, assez souvent, quand on s'est trompé, ça veut dire qu'on avait tout faux.
Oui.
Et donc on nous laisse pas forcément de seconde chance pour réessayer. Enfin, en tout cas, c'est aussi ce qu'on s'imagine. Mais c'est de ça qu'il faut sortir, parce que la pression, on se la met tout seul, en fait.
Ouais.
Elle n'est pas tellement, orchestrée, architecturée, ou vraiment poussée ou articulée. Elle est aussi dans nos têtes à nous. Donc, il faut en sortir. Mais pourquoi?
Parce que, en gros, se dire le risque, c'est de prendre des risques, quoi.
Oui, mais le vrai risque, c'est de ne pas en prendre, justement.
Ouais, c'est ça.
Parce que, justement, quand on est dans une situation où tous les autres bougent, là, c'est un peu ce qui se passe. Beaucoup d'acteurs, alors les zones géographiques très puissantes qui commencent à bouger de certaines manières, bon, ils bougent sans nous. Hein. Donc, si nous, on continue à ne pas bouger, justement, au contraire, on est extrêmement prévisible et on est extrêmement naïf aussi. Et à ce moment-là, on se fait balloter. Donc, c'est le moment où, justement, il faut prendre des risques pour sortir du prévisible. Parce que sinon, le prévisible que tous les autres prévoient pour nous, c'est qu'on ne compte pas beaucoup sur l'échiquier.
Et est-ce qu'on réfléchit à le fait de peut-être s'isoler un peu? Se dire, voilà, quand vous avez eu l'idée de Blablacar,
complètement. Bah,
les bus existent, les trains existent, les taxis existent, et puis tout d'un coup, on a ce... où l'autostop existe.
Oui, alors il y a s'isoler. Alors, s'isoler aussi au niveau personnel, c'est-à-dire que prendre un risque, c'est aussi prendre le risque de s'isoler, y compris possiblement socialement, enfin en tout cas au niveau du travail, si on s'est trompé, on va pouvoir être regardé de travers. Donc ce qu'il faut faire, c'est que quand on prend un risque, non seulement il faut quand même prendre un risque calculé, il faut aller vérifier,
oui, bien sûr, oui.
Évidemment on fait pas n'importe quoi, on saute pas sans parachute, et en même temps il faut s'arranger pour que ce soit une décision de tout le monde, parce qu'à ce moment-là, si jamais ça échoue, c'est tout le monde ensemble qui va essayer de trouver une solution, et les personnes qui ont été dans le projet ne sont pas dans une situation d'isolement par rapport à l'entourage. Ça, c'est très important, parce que c'est une double peur qu'on a quand on prend un risque. Non seulement on a peur de se tromper, mais on a peur d'être isolé par la suite. Et alors, l'homme est quand même un être un peu grégaire. On aime bien quand même avoir des gens autour de nous, vivre en communauté. Et s'isoler, c'est un mauvais signe. Donc, il faut l'éviter.
Aspect important aussi, Benjamin Sarda, c'est le cadre réglementaire qui est souvent lu, vous, comme quelque chose de lourd. On a beaucoup d'incertitudes, on le voit aujourd'hui, hein, fiscal, réglementaire et tout ça. Et ça pousse pas vers la prise de risque, quoi. Alors, si je prends des risques et puis que juste après tout change.
En tout cas, c'est ce que les entrepreneurs et les leaders ressentent. 40% des gens qui ont répondu à l'enquête nous ont dit il y a un véritable risque réglementaire. Et en fait, quand on regarde, par exemple, les indices de stabilité réglementaire de la France par rapport à nos voisins européens, c'est vrai qu'en France, on a un peu moins de stabilité réglementaire qu'on a dans d'autres pays proches de nous. Maintenant, je pense qu'il y a peut-être trois idées pour nuancer un petit peu cette statistique. La première, c'est que il y a sur le risque réglementaire presque une incompréhension fondamentale sur le rôle de l'entreprise. Beaucoup d'administrateurs à qui on a parlé nous ont dit le rôle d'une entreprise, c'est de faire de la croissance et de créer des emplois. C'est pas exactement le contenu de la loi Pacte, et je pense qu'on a un dispositif réglementaire qui attend de l'entreprise un petit peu plus que ça. Et donc ce problème d'alignement entre ce qu'on pense être la mission de l'entreprise et ce que la réglementation lui demande de faire, ça probablement ça crée une petite tension.
Il ne faut pas se cacher derrière la réglementation, tu veux.
Et le deuxième point, c'est qu'il ne faut pas se cacher derrière la réglementation, parce que comme le disait Fred, il y a une grande partie de ces verrous qui sont des verrous internes. Et donc quand on voit que seulement 20% des chefs d'entreprise considèrent qu'on a les bonnes conditions pour la prise de risque, c'est en particulier parce qu'à l'intérieur des entreprises, on n'a pas créé les bonnes conditions.
Et très bien, vous voyez deux formes de régulation,
c'est ça? Oui, c'est-à-dire que quand on dit, c'est le troisième point que je voulais aborder, quand on dit réglementation, en réalité, on parle de choses qui sont des objets très différents quand on parle de la réglementation d'un marché très mature et de la réglementation d'un marché émergent. Typiquement, la loi Pacte, ça part beaucoup de choses dont on a l'habitude, des entreprises installées. C'est un petit peu différent de parler de la réglementation de l'innovation. Et là, je pense que d'ailleurs, Frédéric pourrait en dire deux ou trois mots, puisqu'il a été confronté directement au problème.
Oui, parce que c'était quelque chose de nouveau qui arrivait avec Blablacar.
Par définition, oui, quand on crée quelque chose de nouveau, c'était pas prévu.
Non.
C'était pas prévu par personne.
Et encore moins par la réglementation.
Exactement, mais la réglementation, il faut se mettre à leur place. C'est déjà très compliqué d'aller réussir à réglementer ce qui existe. Donc, c'est quand même très, très rare qu'on ait réglementé ce qui n'existe pas, ou ce qui n'a pas été essayé. Donc, très souvent, quand on innove, on se retrouve dans la situation de frotter quelque part un peu la ligne jaune parce que ce qu'on fait ne rentre pas dans une case. Et donc, à ce moment-là, il faut se poser la question soi-même. Ça demande évidemment de prendre du recul. De la manière avec laquelle ce qu'on est en train d'imaginer va être accueilli. Et se dire, bon, alors effectivement, on n'est pas dans les clous, mais bon, ce qu'on fait, c'est quand même bien. Donc, je ne vois pas pourquoi on irait nous empêcher de le faire plus tard. Et à ce moment-là, bon, on a des discussions constructives. C'est vrai qu'on l'a vu, nous, alors, sur le covoiturage, notamment, quand on a grandi en France, on a réussi un petit peu en même temps à avoir une définition du covoiturage qui a fini par arriver et qui a fait que bon, le covoiturage s'est inséré naturellement dans, dans tout le paysage des transports. Dans d'autres pays, quand on est arrivé et en se développant de manière un petit peu plus rapide aussi, c'est arrivé qu'on soit assez incompris parce qu'il n'y avait pas de définition de ce qu'était le covoiturage. Donc c'était confondu avec du taxi, confondu avec du transport.
Est-ce que je viens pas mettre du désordre dans tout ça finalement?
Oui, c'est-à-dire que de toute manière, on apporte une solution alternative, on apporte quelque chose de nouveau, et donc par rapport aux acteurs qui sont en place, ils se disent mais il est dans quelle case celui-là ?
Oui.
Et donc à un moment, on se frotte à justement au fait qu'on n'a pas de case, et donc il faut réussir à obtenir une définition parce que sinon effectivement ça frotte un petit peu partout.
Et alors comment on retrouve cet amour du risque, Benjamin ?
Je pense qu'il y a pas mal d'éléments qu'on vient d'aborder. Le premier, c'est pour les leaders et les managers de se redonner une perspective long terme. En Europe, on a quand même des industries qui ont de beaux jours devant eux. On a un savoir-faire qui est unique. Je pense à la défense, à l'énergie. Là, il nous appartient de raconter l'histoire qu'on a envie de raconter et de se redonner de la vision et de la perspective, de se redonner le droit de prendre des risques là-dessus. Le deuxième levier, c'est d'avoir le bon type de management. On évoquait la nécessité d'avoir une forme de solidarité dans la prise de risque. Ça suppose d'avoir des leaders qui ont une forme d'humilité, qui savent s'entourer des bonnes personnes et qui savent partager la responsabilité de la prise de décision. Et le troisième point, c'est de, comme je le disais tout à l'heure, de recréer les conditions de la prise de risque. On a, pendant cette étude, fait une mesure intéressante. On a demandé aux gens comment était sanctionné l'échec et comment était récompensée la prise de risque, en leur demandant de nous dire si c'était formel ou informel, et financier ou non financier. Ce qui est rigolo, c'est que l'écrasante majorité des gens nous ont dit, quand il y a un échec, on est sanctionné de façon formelle et financière. Oui. Donc on touche à mon portefeuille. Quand il y a une prise de risque, on est récompensé de façon informelle et non financière. Oui. Sous-entendu, j'ai eu une tape dans le dos. Ça, c'est quand même une disposition qui n'est pas de nature à encourager à la prise de risque.
En conclusion, Frédéric, je reviens sur ce qu'on s'est dit toujours, le plus grand risque, c'est justement de ne pas en prendre.
Exactement. Surtout quand tout bouge autour de soi. Il faut bien s'imaginer que quand beaucoup d'acteurs avancent dans différentes directions, ils n'ont pas prévu que ça soit une bonne situation pour nous. Généralement, ils ont prévu que ce soit une bonne situation pour eux.
Oui.
Et donc, si nous-mêmes, on n'est pas capable de remettre en cause nos manières de faire, si on n'est pas capable d'innover, de sortir de ce qu'on a l'habitude de faire, ben, le chemin, il est tout tracé et il n'est pas positif pour nous-mêmes. Mm-hmm. Donc, en fait, c'est là le vrai risque, c'est qu'on se fait entraîner dans une situation qu'on ne contrôle pas, alors qu'en innovant, justement, on est capable d'inventer soi-même son propre futur et donc d'inventer quelque chose de positif pour soi-même. Quand je dis soi-même, c'est soit au niveau, évidemment, entreprise, soit au niveau individuel, mais bon, c'est quelque chose d'important dans la philosophie avec laquelle on aborde le futur.
Et moi, j'aimais bien, dans la préparation de l'émission, on disait, bon, avoir une vision saine, etc., mais il faut rendre ça praticable, des petites métriques et tout ça, c'est ça ?
Oui, c'est aussi parce que quand on parle d'une idée, par exemple, faire quelque chose, avoir une idée, que ce soit l'idée alors pour le covoiturage dont on parlait, ou pour Dift, le nouveau projet que j'ai lancé, on parle de l'idée, mais on se rend pas compte qu'il y a deux facettes sur l'idée. Il y a la facette, la vision, la mission, ce qu'on a envie de faire, et puis il y a la facette de la practicabilité, enfin le pragmatisme qu'il faut avoir pour que cette idée ait des jambes quelque part et qu'elle puisse exister dans le monde qui nous entoure et qu'elle soit compatible. Ça veut dire aller chercher un modèle économique, ça veut dire comprendre exactement qui va utiliser ce service ou ce produit-là initialement, ça veut dire évidemment savoir expliquer en quelques mots ce que ça fait pour que ce soit extrêmement clair. Donc tout ça, c'est le côté pratique de l'idée. Et c'est vrai que on adore parler de la mission, de la vision, mais il faut pas oublier le côté pratique, sinon l'idée, elle reste une idée sans jambes, mais elle n'existe pas dans notre société.
Cadrer tout ça. Bien, merci à tous les deux, Benjamin Cerda, partenaire au BCG, Frédéric Mazzella, fondateur et président de Blablacar et de Dift. Voilà, retrouver l'amour du risque. On espère, voilà, dans ce petit quart d'heure, qu'on a réussi à vous en donner, voilà, quelques pistes. À très bientôt pour une nouvelle émission BFM Stratégie.
BFM Stratégie sur BFM Business.